Bon, à un mois, ce ne sera pas le cas. On est plutôt sur de la régulation après 4 mois. Mais je m'adapte aux parents. Je les écoute beaucoup. Du coup, je prends le temps. Je donne des ressources, des fiches, des liens fiables. Tu sais, des ressources aussi atteignables. Genre, j'envoie pas que des études infâmes à lire très très longues. Je le fais pour le côté validation scientifique. Mais j'envoie aussi des podcasts, des vidéos YouTube. C'est des comptes Insta. Enfin, j'essaye vraiment de sensibiliser de manière différente. Et j'accompagne avec toutes mes connaissances et compétences couplées. Pas uniquement comme consultante en sommeil, en fait. Mais aussi comme doula. En fait, je suis toujours doula. Quand je suis sexothérapeute, je suis doula. Quand je suis consultante au sommeil, je suis doula. Tu vois, cet état d'esprit-là, il est là partout dans ma pratique. Et j'accompagne aussi avec mon bagage de formation universitaire de psychologie. Donc ma méthode, c'est effectivement pas du tout la norme actuellement. Et d'ailleurs, c'est un des premiers trucs que je dis aux parents avant qu'on commence un accompagnement. Attention, moi, je vais pas vous laisser faire pleurer bébé. Ça, c'est pas ce qui va se produire. Je m'adapte vraiment aux besoins, aux limites de tout le monde, en respectant, par contre, ce qui est très important, les besoins fondamentaux des tout-petits.
Mais le sommeil, justement, c'est aussi une histoire de parents, pas seulement d'enfants.
Que ce soit le sommeil ou le reste, toute la parentalité concerne toute la famille, en fait. On a un système familial, et du coup, tout le monde s'imbrique dans tout le monde est un pilier, et toutes les places sont importantes et sont modifiées dès que quelque chose est un peu en difficulté.
Donc maintenant, on va aborder un sujet plus intime, mais essentiel et souvent encore tabou. À quel moment la sexologie est entrée dans ton parcours? Pourquoi ça a fait écho comme ça à un moment de ta vie précis?
En vrai, c'était plutôt au début, en l'occurrence. J'ai eu un partenaire dans ma vie qui me violait 4 fois par jour et qui me violentait. Forcément, j'ai eu besoin rapidement d'établir des vérités dans mes connaissances et dans mes schémas et dans mes biais cognitifs. Et j'ai eu besoin de reconstruire ça. Comme j'intellectualise beaucoup, c'est passé par l'apprentissage. Très très jeune, je vais avoir 16 ans quand j'ai compris que la sexo, ça m'intéressait beaucoup et qu'il fallait que je creuse, vraiment. Parce que les violences, je les ai vécues de mes 14 à 16 ans, donc particulièrement jeune. Dès le lycée, notamment en étant modératrice MMM sur Rouen, c'est une communauté qui vient des personnes qui suivent Orgasme et moi, Charlène Vermont, sur Instagram. Il y a des meet-up qui se sont faits un peu partout, des groupes, on va dire, qui se sont créés. Et moi, du coup, j'étais la modo, pareil, je devais avoir 17 ans, la modo du groupe MMM de Rouen et de Normandie au début, puis après de Rouen. Puis ensuite, je me suis formée aux love produits. Donc les love produits, ça inclut pas que les sextoys, c'est vraiment tout, les jeux, les sextoys, tout, c'est trop
les
bien.
Les gels.
Oui, oui, bien sûr, les lubrifiants, tout, mais les produits sensoriels, tout, enfin bref, c'est trop intéressant, moi j'adore. Et enfin, après, j'ai passé le cap de faire ma formation de sexothérapeute, comme je te disais tout à l'heure.
Pourquoi est-ce si important de parler de sexualité dans les périodes de vie comme la naissance ou le postpartum?
Parce que l'éducation sexuelle, donc le fait de parler de sexualité ou de consentement, vie affective, etc., ça protège des violences, ça protège des incompréhensions, des frustrations, des traumatismes. C'est pour ça que c'est très utile Evras, je pense. Sachant qu'on le rappelle, Evras n'invite pas les enfants maternels à se masturber, comme beaucoup de personnes le disent. On n'est pas du tout sur ça. On est sur, voilà, comment ton corps doit être respecté. Si quelqu'un te touche sur ses parties, ce n'est pas normal. Tu dois en informer quelqu'un de confiance, et ainsi de suite. Evras, c'est soft, en fait. Hein.
C'est-à-dire que certains, je me permets de réagir, pensent que la sexualité n'existe pas chez les enfants maternels. Et ils pensent que c'est des idées qu'on leur insère. Enfin, c'est comme une forme d'influence.
Ouais, je comprends. Je pense que les parents, comme d'habitude, veulent juste protéger leurs enfants. Je leur jette pas la pierre, bien sûr. Mais je les invite à s'informer. Notamment, les études, comme d'habitude, on reprend les bases scientifiques, prouvent que des enfants qui ont une éducation sexuelle, plus ils ont une large, on va dire, éducation sexuelle, plus ils ont des rapports tard. Les études le prouvent. Donc c'est bien que ça ne va pas dans le sens de ces arguments de dire ouais mais on leur met des idées en tête. Non, on leur donne notions. Des ressources, ouais, des notions qui leur permettent de faire face à certaines situations. Sur les petits, c'est surtout des protections contre les violences sexistes et sexuelles, mais surtout contre les violences sexuelles qui sont majoritairement dans le cadre familial, parce qu'on dit ouais mais c'est aux familles de faire ça. Le problème c'est que parfois les familles c'est elles qui font les violences sexuelles, et on le sait, dans une classe les statistiques sont terrifiantes, tu sais, sur une classe de 25, je connais pas la stat précise,
c'est 3,
mais ouais c'est énorme, c'est 3 sur 25, un truc comme ça, c'est immense, et c'est souvent malheureusement dans la famille, d'où l'intérêt d'Evras en fait, de protéger, toujours protéger les enfants, c'est le but.
Je rebondis quand même en précisant que le premier prédateur intrafamilial est le papa, suivi des frères, du grand-père.
C'est pour ça que je pense que l'éducation sexuelle, et en plus sexuelle, c'est même pas tellement le bon mot pour les tout-petits, parce que c'est vraiment de l'éducation à la vie affective, au corps, à l'intimité, au consentement. Oui, c'est important de parler sexualité. En postpartum, du coup, on a des attentes inadaptées, on en parlait tout à l'heure, la plupart du temps envers les femmes, pressant une reprise des rapports sexuels, alors que le corps, il peut ne pas être prêt, et où la charge mentale et la fatigue peuvent prendre trop de place, n'en laissant plus malheureusement au désir, et ça donc les coparents ont leur pouvoir là-dedans, ils peuvent aussi se permettre de prendre de la charge mentale peut-être, sachant que ce serait bien qu'ils le fassent pas juste pour avoir des rapports sexuels, mais sinon, information donnée, une femme qui a de la liberté, d'espace mental, elle se sentira peut-être plus OP après. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire les tâches, etc., juste pour avoir des rapports. Hein. Vraiment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, qu'on soit bien clair. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour déconstruire une idée reçue sur le co-sleeping et l'allaitement. On entend souvent dire que ça empêcherait d'avoir une vie sexuelle épanouie, d'allaiter longtemps son enfant ou de co-sleepinguer. Alors, je ne suis pas sûre du terme là, mais t'as compris ce que je voulais dire.
Oui, oui, oui.
C'est faux. Déjà, l'intimité, elle peut exister ailleurs que dans un lit, et puis même avant d'avoir des enfants. Mais surtout, ce qui tue l'amour, c'est pas de dormir avec son enfant ou d'allaiter. Ce qui tue l'amour, c'est l'épuisement. Majoritairement. Et là-dessus, les études, elles sont claires. Les bébés allaités, ils se réveillent pas plus que les autres, déjà. Donc ça, hop, premier debunk. Ensuite, au contraire, les hormones qu'on produit quand on allaite, que ce soit pour le bébé ou pour nous, elles nous aident à nous rendormir plus vite. Donc, on est moins fatigué. Donc, on n'est pas épuisé. Et du coup, le co-sleeping, finalement, moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est un facteur protecteur pour préserver le sommeil de tout le monde. Et donc, ensuite, pourquoi pas, si l'envie est là, la libido et une disponibilité émotionnelle pour le couple.
J'aime, tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant. Tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. À l'origine, une caresse qui te traverse, un regard qui t'éclaire et te protège. À l'origine, quelqu'un qui te prend par la main et qui te murmure la vie. La vie a choisi. Oh, la vie a choisi. À l'origine, une peur qui s'est comme incrustée et qui tourne dans l'absurdité. Un coup mauvais sous ta peau tatouée. Une mémoire malsaine qui t'a contaminé. Et l'amour qui soudain se rétrécit. Et la flamme qui s'éteint, qui s'obscurcit. À l'origine, quelqu'un qui te lâche la main et qui te dit la vie. La vie t'a trahi. Oh, la vie. Tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant. Tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. Alors tu retournes ton regard au-dedans et tu vois la beauté qui n'est jamais abîmée. Et c'est toi qui tend la main, la vie. La vie t'a repris. Oh, la vie t'a et tu te rappelles qu'à l'origine une caresse te traverse, qu'un regard t'éclaire et te protège, qu'à l'origine quelqu'un te prend par la main et te murmure la vie. La vie. Thank you.
L'entre-femme.
L'entre-femme.
Retrouvez le podcast de l'entre-femme sur Spotify.
Sur Spotify.
Et YouTube.
Et YouTube.
Tu accompagnes aussi des problématiques comme les troubles de l'érection, la baisse du désir ou la douleur ?
En tant que sexo, ouais, surtout. D'ailleurs, j'ai rarement d'autres sujets. Mon public, il est très différent quand je suis sexothérapeute de mon public de doula, parce que mon public de doula, c'est souvent des familles, des mamans assez conscientes quand même, parce que pour savoir ce que c'est une doula, il faut être assez informé aussi. Avec mon public en sexo, on est plutôt sur des personnes très peu informées, justement, qui sont un peu désespérées, généralement, qui se disent « Merde, comment je vais m'en sortir ?» Et beaucoup d'hommes avec des troubles d'érection, beaucoup, qui ne seraient jamais venus me voir en tant que doula, ou des femmes victimes de stress post-traumatique, de vaginisme, de douleur, etc.
Comme tu ne travailles pas dans un cadre médical, ça reste un accompagnement psychologique.
Exactement. Alors psychologique, je le rappelle, du coup, je ne suis pas psychiatre ni psychologue, mais c'est un accompagnement qui va travailler sur les causes psychogènes des troubles érectiles. Par exemple, si j'ai un accompagné qui vient me voir, je vais d'abord, tu sais, faire passer un peu un questionnaire. Est-ce que tu as vu ton médecin? Est-ce que tu es en compagnie? Est-ce que tu as fait des rendez-vous urologues? Par exemple, c'est un homme, etc. Est-ce que tu as fait des tests de testo? Est-ce que, en fait, vraiment, on exclut toutes les possibilités médicales, parce que moi, j'ai pas ma place là-dedans. À la limite, je peux le soutenir. Courage, ça va aller. Et puis, parfois, en tant que doula, je peux accompagner, tu vois, les gens au rendez-vous.
Et l'orienter.
Bien sûr, l'orienter, bah, je redirige. Systématiquement, je redirige. D'ailleurs, j'ai des questions avant qu'on commence l'accompagnement. Et dedans, il y a est-ce que vous êtes suivi par des pros? Par qui? Comment ça se passe? Etc. Et si je vois qu'il y a quelque chose de difficile là-dedans, je redirige et je n'accepte pas l'accompagnement tant qu'il n'y a pas un suivi médical avant.
Donc les hommes, ils consultent facilement quand même?
Je pense que le cliché dirait que oh, les hommes sont gênés, ils consultent pas, mais en fait j'ai plus d'hommes en sexo que j'ai de femmes. Donc ça dépend vraiment comme d'hab hein, des personnes, de leurs histoires, de leurs croyances. Jusqu'ici j'ai plus eu de femmes en fait mal à l'aise que d'hommes, mais je pense pas pour les mêmes raisons. Parce que les femmes, il y a ce côté tabou, elles se sentent sales, elles sont très shamées. Alors que les hommes, c'est plutôt l'ego et la virilité. C'est des choses différentes, mais parce que c'est culturel, c'est social, c'est le patriarcat, c'est des milliers de raisons. Donc je dirais du coup oui et non, les hommes ils ont honte de ce qu'ils ont, alors que les femmes elles ont honte de ce qu'elles sont. Je vais rééduquer à la base, déjà au corps, à s'aimer. Mais même tu vois des hommes qui ont des troubles érectiles, je fais beaucoup de choses un peu en pleine conscience et tout. Et souvent c'est cool parce que ça peut être des hommes de 55 ans qui sont très en mode qui souffrent pas et tout. Et en fait tu sens que ça fait quelque chose, ça vient toucher à quelque chose qu'ils ont pas l'habitude et ça marche bien.
Selon toi, la parentalité met souvent le couple à l'épreuve sur le plan intime ?
Comme d'hab, oui et non. C'est-à-dire que bien sûr, comme je disais tout à l'heure, fatigue et charge mentale, manque de soutien. Surtout de ce fameux village, tu sais, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, c'est tellement vrai. La charge mentale, l'épuisement, tout ça, ça sature l'espace. Donc forcément, le couple, il n'a plus la place qu'il aurait voulu avoir, peut-être moins l'intimité également. Pour autant, je trouve que ce ne serait pas juste de rejeter, entre guillemets, la faute sur la parentalité en elle-même ou sur l'arrivée d'un enfant. Ma conviction profonde, c'est que le problème, ce n'est pas d'être parent. Le problème, c'est d'être parent dans une société qui est très individualiste et capitaliste, nous demande toujours plus, sans jamais donner aux familles les moyens de se sentir vraiment libres et épanouies. C'est pas l'enfant, en fait, qui met le couple à l'épreuve, c'est le système dans lequel on l'élève.
Comment tu travailles sur ces sujets sans jugement ni tabou ?
J'ai un discours assez simple et direct, comme là quand je te parle, en fait, hein, tu sais, tout simplement. Je suis convaincue qu'utiliser les termes précis et se dire les choses avec simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux pour déconstruire les tabous autour de la sexualité. Et c'est ce que j'applique aussi avec les plus jeunes, évidemment en adaptant le discours selon l'âge et les besoins, mais c'est primordial de toujours nommer les choses clairement. Mais même vous, en tant que parent, si vous m'entendez, par exemple lors du bain, quand on apprend les parties du corps, on va utiliser les vrais mots, on va pas dire la chouchounette ou le zizi, on va vraiment préférer pénis, testicule, vulve, vagin. Mais ça c'est important, beaucoup d'enfants et d'adultes ne font pas la différence entre le vagin et la vulve. Et pourtant, s'il y a agression et s'il y a procès, il faut savoir si c'était vagin ou vulve. C'est problématique, c'est horrible, on est d'accord. On espère que les enfants ne vivent pas ça. Mais savoir nommer, ça protège les enfants. Parce qu'ils peuvent venir vous voir et dire « telle personne m'a touché la vulve, ça s'est passé comme ça ». Et ça laisse beaucoup moins de place au doute. Donc si nous, en tant qu'adultes, on est capable de faire cette distinction, on permet à nos enfants déjà de ne pas avoir honte d'eux-mêmes. Parce que pourquoi on appellerait un nez et une vulve une petite fleur ? Les enfants aussi sont gênés de parler de cette zone-là. Et qu'ils ont une agression, notamment, je reviens sur ça, mais parce que c'est trop fréquent. Et bien du coup, ils vont peut-être pas le nommer aussi, soit mal le nommer, soit pas le nommer parce qu'ils peuvent pas. Ça leur permet de pas avoir honte d'eux-mêmes, de leur corps, de lever le tabou, d'ouvrir le dialogue. Quand on sait nommer précisément les parties de son corps, on prévient les violences en permettant à l'enfant de mieux se défendre en cas d'atteinte, parce qu'il possède les mots pour décrire précisément la situation.
Selon toi, la sexualité change forcément après un enfant ?
Chaque individu, chaque couple vit les choses différemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sexualité, c'est pas quelque chose de figé. Elle se transforme, elle se déconstruit, elle se reconstruit tout au long de notre existence. Et l'arrivée d'un enfant, c'est un rite de passage majeur. Mais au même titre qu'un deuil, t'as rarement envie d'avoir des rapports quand tu vas très très mal. Ou au contraire, parfois t'en as beaucoup pour compenser, mais il y a toujours, tu sais, un petit truc psycho derrière. Un déménagement, t'as plus le temps, tu rushes et tout. Ou tout autre grand événement de vie en fait. Donc forcément, ça bouscule l'équilibre. Mais c'est l'occasion de réinventer sa manière d'être ensemble, plutôt que de voir cela comme une fin en soi.
Qu'est-ce que tu aimerais que les gens osent davantage dire ou demander ?
De manière générale, j'aimerais que les gens ils s'ouvrent davantage aux sujets liés à l'orientation romantico-sexuelle, à l'identité de genre ou à l'éducation sexuelle, comme Evraz dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de propagande ou de lobby LGBTQIA+, mais c'est un contresens total parce qu'en réalité, si on veut parler de propagande, elle a toujours été massivement hétérosexuelle, notamment dans les dessins animés. Depuis toujours, on expose les enfants à des personnages hétéros qui tombent amoureux, qui s'embrassent dans tous les films, dessins animés, même parfois sans leur consentement, comme La Belle au bois dormant, par exemple. Et ça choque personne. Par contre, pourtant, dès que quelques rares personnages queer apparaissent, on crie au lobby et c'est un immense double standard. Du coup, il faut comprendre que, pourtant, malgré des siècles de lobbying, entre grandes guillemets, hétéro-exclusifs, les personnes queer, elles ont toujours existé. L'orientation sexuelle, elle est innée, c'est pas un choix. Tu nais comme tu es et c'est ok, c'est pas ni un choix ni une influence. On manque de représentation, ça a jamais empêché les gens d'être queer, ça a simplement empêché leur visibilisation et ça a créé de la souffrance de me dire pourquoi moi je me retrouve pas là-dedans.
On a parlé du début de la vie, mais tu accompagnes aussi l'autre extrémité de ce chemin. On associe souvent les doulas à la naissance, moins à la fin de vie. Pourtant, tu accompagnes aussi ces moments-là. Comment tu en es venue à accompagner le deuil et à la fin de vie ?
Parce que c'était dans mon cursus de formation. Les formations françaises, même suisses, tout ça. J'avais pas trop ce que je cherchais. J'ai beaucoup aimé quand j'ai trouvé ma formation de Quantique Doula. Alors maintenant, c'est plus Quantique Doula, c'est Institut Doulé. Le mot quantique faisait très très peur. C'est une formation hyper scientifique. Et cette formation, on dit beaucoup entre science et sacré. C'est tellement vrai. On a des infos hyper dures sur l'embryogenèse, des trucs vraiment mais médicaux pour qu'on soit informé. Dans cette formation, il y a un module complet sur la mort, la ménopause, etc. Vraiment plutôt la fin de parcours, généralement. On trouve la mort en début de parcours, en milieu de parcours, tout le temps, partout. C'était dans ma formation, et d'ailleurs, ça me semblait nécessaire que ce le soit. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Je pense que quand il y a la vie, il y a forcément la mort, et que c'est une notion qu'il faut vraiment avoir en tête tout le temps. Même des doulas qui sont pas formées au deuil, elles accompagnent une grossesse. Et puis là, bébé meurt dans le ventre. Ça fait mal, ça fait toujours mal. Elle fait comment, en fait, pour gérer ? Elle est pas formée, elle fait comment ? Et c'est pour ça qu'il faut être formée.
En quoi c'est différent l'accompagnement de la naissance ou le deuil et la fin de vie ?
C'est pas très différent dans le fonctionnement de séance sur le côté informatif. Alors ça va vraiment dépendre d'où sont les personnes qui viennent me voir. Dans tous les cas, comme toutes mes séances, il y a toujours la préparation en amont, la séance elle-même, le mail récap avec des ressources, etc. Je pense pas pouvoir comparer mes accompagnements. Mais si je devais le faire, je comparerais l'accompagnement du deuil à celui du postpartum, parce que c'est des périodes de grande vulnérabilité, où les visites soutenantes, le ménage, les repas, l'écoute, c'est vraiment les bienvenus dans ces moments-là. Le deuil, on le traverse toute une vie. On parle souvent des 7 étapes du deuil, mais parfois on fait les 4 en même temps, puis ensuite on revoit en arrière, et puis on repart, et puis toute une vie, en fait, on traverse ce deuil-là. De manière toujours très personnelle. Mon approche, du coup, elle est la même qu'en postpartum. Je soutiens. S'il y a besoin, j'informe et je suis là.
Et humainement, qu'est-ce que tu apportes ? De la douceur, de la compassion ?
Ça va vraiment dépendre des gens. En fait, il y a des gens qui ont besoin d'intellectualiser beaucoup, donc je leur fais des fiches. Beaucoup de gens ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont juste besoin de pouvoir se laisser porter, donc je leur fais manger. Je leur fais le ménage, je les écoute. C'est vraiment hyper varié. Surtout que je peux accompagner le moment en lui-même, porter l'espace, accompagner au rendez-vous aussi, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs quand tu viens d'avoir des gens qui meurent. L'administratif très inhumain, tu sais, la personne, limite, elle est encore décédée à côté de toi. On te demande déjà si tu veux faire ci, faire ça, les papiers, oublie pas, faut résilier tel truc. Ça s'enchaîne, c'est horrible, en fait, c'est inhumain. Du coup, moi, je peux soutenir là-dedans pour essayer de décharger un peu, de remettre de la conscience. Et certains collègues offrent des prestations d'organisation des cérémonies, par exemple.
C'est une bonne idée. Comment toi t'arrives à te protéger émotionnellement quand tu accompagnes des situations aussi lourdes ?
Comme je peux. Certaines personnes, elles peuvent se détacher complètement des situations, certains pros. Moi, c'est pas le cas. Ça me pose pas de problème que ce soit pas le cas, soit en passant. Je pense que c'est aussi ce qui fait partie de mon essence en tant que doula et que professionnelle. Et pour contenir tout ça, il existe de la supervision. Moi, j'ai la chance du coup d'être et doula, et d'avoir des diplômes de psycho, et d'être sexothérapeute, donc j'ai plein de manières différentes d'avoir de la supervision, ce qui est cool. Mettre en commun entre professionnels, mentors, collègues, c'est utile. Et je pense aussi que c'est bien de toujours avoir un petit suivi psy en backup. Il y a besoin parce que certaines fois, ça peut réveiller des choses chez nous aussi. Donc c'est important qu'on prenne soin de nous pour être ensuite la professionnelle éthique et disponible qu'on aime être.
Est-ce que ces expériences changent ton regard sur la vie ?
Mon regard sur la vie, il était déjà un peu particulier avant mon travail. Donc je dirais que les expériences au sein de mon métier, elles me forgent plutôt sur ma manière de porter l'espace, plus que mon regard sur la vie. C'est-à-dire que je pense que ça se voit un peu dans ma manière de répondre, mais je suis un peu tout feu, tout flamme. Je suis pas la doula hyper calme, qui fait des trucs avec des bols tibétains et tout. C'est pas trop ça, moi, de mon côté. En travaillant, j'apprends à redescendre pas mal, parce que je veux être le plus adapté possible pour mes accompagnés et que parfois c'est nécessaire. Pas toujours, il y a des gens qui aiment bien cette énergie-là, mais il y a des gens, je le sens, quand je dois entrer dans l'espace, je dois vraiment me mettre en mode calme, quoi, c'est tout. Et du coup, ça m'apprend beaucoup de self-control. C'est même utile dans ma vie perso, en vrai.
On va parler de toi en tant que femme et maman, mais avant ça, j'ai deux dernières questions sur la profession de doula. Est-ce que déjà, c'est un métier où vient s'imposer, où vient participer le côté spirituel ?
Alors, s'imposer, oui, non, disons que... En fait, spirituel, moi, c'est vraiment pas forcément le terme que j'y mettrais. Il y a des doulas, ouais, carrément, parce qu'elles vont vraiment pousser le truc parce que ça leur parle et c'est trop cool. Moi, je critique pas ça du tout, au contraire, on pratique tout comme ça nous inspire, mais moi, pas trop. Moi, on va dire qu'il y a de la conscience plus que la spiritualité. Après, je suis très ouverte à la spiritualité, tu vois, j'ai des pratiques un peu controversées. Par rapport au placenta, par exemple, j'ai une vision un peu spirituelle, peut-être.
Tu peux en dire plus ?
Ouais, bah notamment, moi, quand j'informe les personnes que j'accompagne des choses possibles, on parle pas d'un clampage direct, tu sais, dès que bébé est sorti du corps. Souvent, moi, j'invite des clampages tardifs, voire bien plus, des placentas lotus, même si les parents sont chauds. J'informe des pratiques qui existent autour de nous et de ce que les familles peuvent choisir de faire ou de ne pas faire. Ça peut s'apparenter un peu à des choses spirituelles parce que les études scientifiques, elles prouvent pas encore les choses, mais parce qu'ils sont un peu frileux de tout ça pour le moment. J'espère qu'un jour, il y aura plus d'études qui prouvent les bienfaits, les intérêts, etc. On pourrait croire que je suis assez spirituelle, notamment quand on regarde mon site peut-être, mais en fait pas tant que ça, parce que je suis vraiment dans l'information et dans les preuves par la science tout le temps. Par contre, la conscience, oui. Quand je mets les pieds dans une maison, je sais que cette maison, avant, il y avait autre chose à la place de la maison, qu'il y a des personnes qui ont vécu, qui ont accouché, qui sont mortes, et je porte l'espace en ayant cette conscience de ça. Même actuelle, en se disant, bah, cette famille-là, tout le monde a grandi ici, ils ont leurs souvenirs là, sur le mur, il y a la taille de l'enfant et tout.
Une dernière question sur cette profession, est-ce que c'est conventionné ? Est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale ?
Non, comme c'est pas réglementé, pas du tout. Après, il y a des alternatives qui existent pour pouvoir payer moins cher. Il y a des doulas, dont je fais partie évidemment, qui proposent des tarifs réduits. Parce que comme on a un métier non réglementé, l'URSSAF, elle prend vraiment beaucoup dessus. Une formation doula, elle est payante de ta poche. Par exemple, ma formation, elle m'a coûté 4 800 €. Pareil pour ma formation de sexo, je sais pas si tu vois, on arrive déjà à 10 000 € de formation. Et mes formations annexes, et celle du sommeil 2000, et ainsi de suite. Et en fait, ça monte très très vite. On a du matos aussi. Tout ce qui est bassin, bébé, livre, machin, bah, ça coûte beaucoup d'argent. Le bassin bébé placenta, ça m'a coûté 450. Enfin, ça monte vite. Donc les doulas, elles sont obligées de mettre des prix pour essayer de un minimum rentabiliser. Moi, j'en suis pas du tout à la rentabilité, on va pas se mentir. Je suis vraiment pas staff pour les sous. Certaines sages-femmes pensent ça, d'ailleurs. Le conseil de l'ordre m'en avait parlé en me disant, mais les doulas, vous faites payer super cher ce que nous, on peut faire avec la CPM et tout. Bon, déjà, on fait pas la même chose, mais au-delà de ça, nous, on se fait prélever un max. Certaines doulas proposent moins cher. Un tarif, en général, moyen. C'est entre 80 et 100 €, sachant que les tarifs réduits, par exemple, que moi je propose, ça peut être 60, ça peut être moins s'il y a besoin, parce que je m'adapte tout le temps. Et il y a aussi certaines mutuelles qui font des remboursements partiels. Également pour les naissances, quand on accompagne pour une grossesse, souvent les parents ont droit à la prime de naissance de 1 000 €. Ça peut servir à payer une doula. Ou le cadeau naissance, on achète plein de body, toute la famille achète des trucs qui coûtent une blinde, que bébé va vomir 30 fois dessus, qui sera plus jamais utilisable. Paye plutôt les services d'une doula, tu vois. J'ai des familles qui ont fait ça, moi, des familles qui n'ont pas trop de sous. En fait, elles viennent me voir et c'est des potes qui leur ont offert, qui me payent en fait les séances. Ça, c'est chouette.
Trop bien, ouais. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu plus de toi en tant que femme et maman. Tu es aussi maman. Est-ce que ton métier t'aide dans ta vie de mère ou au contraire, est-ce que c'est parfois difficile de tout concilier ?
Je pense que toutes les formations que j'ai faites me guident quand même en partie dans mon rôle de parent. Également, ma personnalité et l'esprit critique que j'ai m'a permis aussi de faire ces formations. Il y a certaines formations que j'aurais aimé faire avant, notamment celle sur le sommeil, parce que ma fille, elle avait déjà 1 an et demi, je crois. J'aurais bien voulu savoir ce que j'ai su avant, ça m'aurait bien aidé. Bien sûr que c'est chargé de tout concilier, mais c'est porteur de sens et je le fais pour mon enfant également. En fait, je veux que les enfants aillent bien. Et si les autres enfants vont bien, mon enfant, il sera entouré d'enfants qui vont bien. Ça fait un cercle vertueux et ça me plaît bien parce que je lui souhaite un monde rempli de personnes informées, lucides, avec un bel esprit critique, de belles compétences d'empathie. Et c'est d'ailleurs ce que je souhaite pour tous les enfants, évidemment. Et c'est l'essence de pourquoi j'ai le parcours que j'ai, mais on en a parlé tout à l'heure.
Dans ta profession, tu es confrontée à la douleur, au chagrin, aux problèmes. Est-ce que tu arrives à mettre un mur, une limite entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle ? Est-ce que le travail reste au travail ? Est-ce que la vie perso reste à la vie perso ?
Moi, je suis pas forcément l'exemple à prendre pour ça, parce que la manière dont j'exerce, notamment au regard de l'astreinte, ça implique forcément d'être très engagée dans ce que je fais. Lorsque je suis d'astreinte, par exemple, tout mon emploi du temps, il est fait en fonction de ça, qu'il soit professionnel ou personnel. Tu vois, je vais pas trop me prendre de rendez-vous. Si j'accepte d'autres personnes en même temps, je vais prévenir que je peux peut-être annuler. Ça veut aussi dire que je dois faire en sorte que mon mari puisse toujours prendre le relais de mon enfant. Enfin, tu vois, ça implique forcément des choses. J'essaye aussi d'avoir une hygiène de vie plus contrôlée, pour pas tomber malade. Du coup, beaucoup de personnes pensent que l'astreinte, c'est un sacrifice. Et même si, en vrai, c'est quand même un stress sous-jacent, t'as un peu l'épée de Damoclès, tu sais pas quand ça va tomber et tout. Moi, je trouve que c'est aussi l'occasion de prendre davantage soin de moi, parce que comme je régule un peu plus mon hygiène pour être vraiment clean pour le moment où je vais avoir besoin de moi pendant longtemps, bah du coup, je prends plus soin de moi, en fait. Donc ça me fait aussi du bien. Je dirais que c'est quand même particulièrement difficile quand ça se cumule de manière imprévue. Donc là, comme je te disais, la dernière astreinte où j'ai vécu 2 décès, dont un très violent au sein de mon cercle restreint de proches, je m'en serais un petit peu passé, mais des événements perso. Et en même temps, ça faisait sens pour moi, parce que quand il y a la vie, il y a la mort. Il faut se mettre un sac à coups de pied au cul pour pouvoir être quand même présente à fond pour la famille, je dirais.
Ton regard sur la parentalité a changé depuis que tu accompagnes les autres ?
Depuis que je me suis formée, au fur et à mesure des années, oui, mon regard a changé, mais pas depuis forcément que j'accompagne les gens. Ce qui a fait changer mon regard, c'est plutôt mes apprentissages. Moi aussi, le fait que je vieillisse. Quand j'étais jeune, j'étais pas informée. Je pensais aussi que les enfants, c'était parfois des sales gosses. Maintenant, je suis informée. Et je disais des choses bateau que tout le monde dit parce que je répétais et sans source. Heureusement que j'ai ce sale caractère à vouloir tout vérifier, à tout critiquer, à tout comprendre, parce que ça m'a permis du coup de me former et de changer de regard là-dessus.
Ça serait pas mal, tu sais, quand pendant la grossesse, on a des séances d'aide à l'accouchement, des séances pour prendre soin de soi, pour se préparer. Ça serait pas mal aussi des petites séances de parentalité, comprendre justement ce que tu disais, que le caprice ne fait pas partie de l'enfant, que c'est simplement son cerveau qui peut pas...
Il peut pas tout gérer, simplement.
Exactement. Ça serait pas mal, ouais, des petites séances aussi de formation un peu au sommeil.
Complètement, mais il faudrait que ce soit fait par des gens avec des formations actualisées, parce que actuellement, certaines sages-femmes pas forcément formés au sommeil, ou même certains pédiatres, ou même pas que des personnels soignants, mais des gens qui n'ont pas les dernières informations, par exemple, pour parler du sommeil, se permettent quand même de donner des cours, des conseils, des webinaires, des ateliers. Il faudrait que ce soit très encadré, et c'est pas le cas en France actuellement par rapport à ça. Caroline Goldman, ses prises de position, moi je suis opposée, mais fermement. Je pense que c'est scandaleux d'avoir autant de pouvoir d'écoute, etc., et de dire des trucs pareils. C'est problématique parce que du coup, les parents, ils pensent s'informer en écoutant ça. Et en fait, comme c'est encore des faux trucs véhiculés, on s'en sort pas en fait.
Tu pourrais proposer des séances comme ça, des conférences ?
Complètement. Après, moi, je suis plus à l'aise en individuel. Parce que je suis assez timide, un peu anxieuse aussi et tout. Je suis plus à l'aise d'être en face de la famille. Et puis tu sais, souvent... J'ai pas forcément tout qui me vient d'un coup parce que je réfléchis, j'écoute, je fais 30 choses en même temps dans mon cerveau. Du coup, je note beaucoup et c'est pour ça que dans ma manière de travailler, je prépare en amont. Ensuite, il y a ce que je peux donner en séance, je le donne, j'échange et machin, je note beaucoup. En fin de séance, genre quand les gens partent, dans les jours qui suivent, je prépare un mail qui est souvent assez balèze avec les fiches, les ressources, les trucs. Et là, je reprends toutes les infos. Donc tu vois, j'ai beaucoup de travail préparatif de quand je peux être posée devant et pas forcément du coup en direct live.
Il y a des choses que tu fais différemment pour ton enfant que ce que tu suggères, que ce que tu proposes dans tes accompagnements ?
Pas trop ce que je propose. En tout cas, je fais de mon mieux pour le respecter. Je sais assez vite me mettre des limites. Des fois, j'ai pas la disponibilité émotionnelle pour appliquer ce que j'aimerais appliquer. Je m'en rends compte vraiment rapidement parce que ça se voit en fait dans le comportement de mon enfant. Tout de suite. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en réaction à nous. Par exemple, la phase des 2 ans, machin, terrible, tout le monde en parle et tout. De ce que je vois sur mon enfant et... concernant elle, comment elle est, je vois bien que selon ma réponse, c'est plus ou moins fort. Alors bien sûr, il y a plus, on va dire, de crise entre guillemets, parce que c'est le moment d'opposition et c'est un moment qui est normal. Mais je vois bien que la manière de les débunker, si je suis calme, ça marche 1000 fois mieux et ça se fait beaucoup moins souvent en fait. Après, j'ai eu la chance de vivre des violences en tant qu'enfant, ce qui fait que...
La chance.
Bah oui, parce que si je les avais pas vécues, est-ce que j'aurais remis en question le truc ? C'était utile et ça fait de moi une meilleure mère pour mon enfant. Ça m'a permis de me renseigner très tôt parce que du coup de voir que ça me correspondait pas et je savais que même si moi j'avais aussi un bagage, je voulais pas refaire la même chose. Dans ma préparation en amont, c'était ma préparation de mon corps, la gestion des troubles alimentaires, notamment en préconception, avant de tomber enceinte. J'ai un peu galéré, j'ai fait une hyperémèse gravidique, j'ai vomi pendant 9 mois, je faisais des malaises, j'ai perdu 10 kilos au début de grossesse, enfin, c'était pas trop le fun. J'aurais anticipé surtout certains besoins, comme par exemple prévoir quelqu'un à domicile pour le ménage, la gestion de la maison, le quotidien, du relais pour pouvoir m'alimenter. Ça m'aurait vraiment aidé. C'est quelque chose que normalement le coparent offre. Moi, mon coparent, qui est quelqu'un de vraiment chouette, ne peut pas me l'offrir pour des raisons de santé, en fait. Si je devais faire un truc différemment, je ferais ça. Et ça, du coup, ça me permet de dire aux familles, si vous avez besoin,